Sur la berge sud de la rivière Mora, devant les ruines, donc au nord-est de la colline de Dachar, Tam Altor invoqua le vide, comme son vieux maître Kimtin lui avait appris bien des années plus tôt. Après, il imagina une flamme unique et y enfouit ses émotions. Un grand calme l'envahit, puis disparut, laissant un immense vide. Comme un mur tout neuf qu'on viendrait juste de peindre et qu'on eût voulu laver. Tout fondit. Devenu le vide, Tam arma son arc, le bon vieil if noir se pliant docilement, l'empennage de la flèche contre sa joue. Il visa, mais ce n'était qu'une formalité. Lorsqu'il incarnait le vide ainsi, sa flèche lui obéissait au doigt et à l'œil. Il ne le savait pas, tout comme le soleil ignorait qu'il se levait ou une branche qu'elle perdait ses feuilles. Mais c'était ainsi, et il n'y avait rien d'autre à dire. Il lâcha la corde et son projectile fendit l'air. Un autre suivit, puis un troisième. Bientôt, il y en eut cinq en vol, chacun tiré en tenant compte de l'influence du vent. Les cinq premiers trolloques qui tentaient de traverser la rivière sur un pont flottant de fortune s'écroulèrent avec un bel ensemble. Les monstres détestaient l'eau, même peu profonde. Quoi qu'ait prévu Matt pour défendre la rivière, en amont ça fonctionnait et elle coulait encore. Mais les ténèbres tenteraient de l'arrêter. En fait, elle devait déjà essayer, car les flots charriaient de temps en temps une carcasse de trolloques ou de mules. Tam continua à tirer, imité par Abel et les autres gardes de rivière. Parfois, il ne visait pas, tirant dans le tas, mais c'était très rare. Un soldat pouvait lâcher ses flèches au jugé, en espérant qu'elles feraient mouche, pas un archer d'élite de Dorivière. Pour les militaires, les projectiles étaient gratuits, pas pour les forestiers. Les trolloques tombaient comme des quilles. Non loin de Tam et de ses gars, les arbalétriers rechargeaient leurs armes en cadence et criblaient les monstres de carreaux. Derrière les trolloques, des blafards les fouettaient pour les forcer à traverser la rivière, sans grand succès. Une flèche de Tam s'enfonça là où aurait dû se trouver l'œil d'un Myrdraal. Près du père de Rand, un type nommé Baird siffla admirativement. Appuyé à sa hache, il regardait pleuvoir les flèches. Appartenant à la compagnie de fantassins placée derrière les archers, il protégerait leur retraite une fois que les monstres auraient réussi à traverser. Baird était un des capitaines de mercenaires qui avait intégré l'armée. Bien qu'il fût andorien, ni lui ni sa centaine d'hommes ne disaient un mot sur l'endroit d'où il venait.
« Il me faut un de ces arcs !» dit-il à ses compagnons. « Vous avez vu ça, les gars ?»
Abel et Adzi sourirent sans cesser de tirer. Tam, lui, resta de marbre. Dans le vide, l'humour n'existait pas, même quand, à l'extérieur, une idée paraissait amusante. En revanche, Tam savait très bien pourquoi Abel et Adzi avaient souri. Posséder un arc de deux rivières ne suffisait pas pour être un archer de deux rivières. Perché sur sa monture, Galad d'Amodred intervint.
« Si tu essaies un de ces arcs, tu te feras plus de mal à toi-même qu'à l'ennemi. Altor, dans combien de temps ?»
Le père de Rand lâcha un nouveau projectile.
« 5 tirs de plus !»
dit-il en prenant une flèche dans son carquois. Il la décocha, puis enchaîna avec 4 autres. 5 trolloques de moins en ce monde. En tout, il avait tiré plus de 30 fois pour un seul raté, parce que Abel avait tué avant lui le monstre qu'il visait.
« Archer, on arrête !»
cria Tam. Les gars de deux rivières reculèrent, et Tam se sépara du vide. Devant lui, des trolloques prenaient maladroitement pied sur la berge. Jusqu'à un certain point, Tam commandait toujours les forces de Perrine. Les capes blanches, la garde du loup et les lanciers du Géaldan lui obéissaient, mais ils avaient leur propre chef. En revanche, les archers n'avaient d'ordre à recevoir que de lui.
« Perrine, tu as intérêt à guérir. »
La veille, quand Harald avait trouvé le jeune homme gisant dans l'herbe à la lisière du camp, il était couvert de sang et presque mort. Par la lumière, ça leur avait fichu un choc à tous. Aujourd'hui, Perrine était en sécurité à Mayenne, où il attendrait probablement l'issue de l'ultime bataille. Des blessures qu'il avait récoltées, aucun homme ne se rétablissait vite, même avec l'aide des Aes Sedai. Rater les combats le ferait sans doute hurler de rage, mais parfois, il fallait savoir se résigner. Ça faisait partie de la vie d'un soldat. Pour mieux suivre la bataille, Tam et ses archers se replièrent jusqu'aux ruines. Alors que des estafettes leur apportaient des flèches, le père de Rand organisa ses hommes pour qu'ils soient prêts dès qu'on aurait de nouveau besoin d'eux. Matt avait placé toutes les forces de Perrine à côté des fidèles du dragon, dirigé par Tina, une femme aux allures de colosse. Ignorant d'où elle venait et pourquoi elle commandait, Tam l'appréciait parce qu'elle avait le maintien d'une dame, la constitution d'un guerrier Aiel et le teint d'un brave du Saldaïa. De plus, les autres semblaient l'écouter. Cela dit, les fidèles du dragon étant un mystère pour lui, Tam en restait aussi loin que possible. Ses hommes et lui avaient reçu l'ordre de tenir. Matt ayant prévu que les Chariens et les Trollocs attaqueraient en masse depuis l'ouest, Tam s'étonnait de le voir envoyer des renforts en amont de la rivière, au-delà du gué. Les fils de la lumière passèrent à l'action, leurs capes blanches flottant au vent quand ils fondirent sur les Trollocs déséquilibrés après être descendus de leur pont flottant instable. Des flèches jaillirent en direction de Galad et de ses hommes. Le bruit des têtes de fer qui rebondissaient contre les boucliers et les armures faisait penser à celui de la grêle qui martèle un toit. Tam ordonna à Arganda de lancer dans la mêlée les fantassins, y compris Bayard et ses mercenaires. Les piques se faisant rares, les soldats d'Arganda brandissaient des halbardes et des lances. Très vite, des cris d'agonie retentirent. Des hommes et des monstres mouraient par centaines. Derrière les lignes de Tam, Aliandre arriva sur son cheval, des fantassins formant un cercle autour d'elle pour la protéger. Quand le père de Rand la salua avec son arc, elle lui répondit d'un signe de tête. La reine avait insisté pour être présente sur le champ de bataille. Tam ne pouvait pas l'en blâmer. Pareillement, il ne lui reprochait pas non plus d'avoir ordonné à ses soldats de la ramener en arrière si les choses tournaient mal.
« Tam !»
cria Danil en déboulant sur son cheval.
« Tam !»
Le père de Rand fit signe à Abel de prendre le commandement des archers. Puis il courut à la rencontre de Danil à l'ombre des ruines. À l'intérieur, ses réserves observaient nerveusement la bataille. Pour l'essentiel, elles étaient composées d'archers venus des compagnies de mercenaires et des fidèles du dragon. Parmi ces derniers, bon nombre ne s'étaient jamais battus. Cela dit, c'était le cas de la plupart des gars de Deux-Rivières quelques mois plus tôt. Et ils avaient appris très vite. Transpercer un cerf ou un trolloc avec une flèche, ce n'était pas très différent. Sauf qu'un cerf, quand on le ratait, ne vous étripait pas quelques secondes plus tard.
« Qu'y a-t-il, Danil ? Des ordres de Matt ?»
« Il t'envoie des compagnies de fantassins de la Légion du Dragon !»
répondit Danil.
« Il faut tenir la rivière à n'importe quel prix !»«
Que mijote ce garçon !»
fit Tam en regardant le plateau de Polov. La Légion du Dragon comptait d'excellents fantassins et de bons archers qui seraient utiles ici. Mais que se passait-il sur le plateau ? Au sommet, les éclairs se reflétaient sur d'épaisses colonnes de fumée noire. Là-haut, les combats faisaient rage.
« Tam, je n'en sais rien !»
avoua Danil.
« Matt a changé !» et j'ai l'impression de ne plus le connaître. Il a toujours été un peu filou, mais là, on croirait qu'il est comme ces héros de légende.
Nous avons tous changé, mon gars. Matt dirait probablement la même chose de toi.
Danil eut un petit rire.
Ah, j'en doute, Tam. Souvent, je me demande ce qui serait arrivé si j'étais parti avec les trois autres garçons. Mais Moiraine cherchait des gars d'un âge bien précis, et j'étais un tout petit peu trop vieux.
Danil semblait regretter d'être resté à Chandemonde ce jour-là. Mais quoi qu'il dise ou qu'il pense, Tam, lui, doutait qu'il aurait aimé subir les épreuves qui avaient fait de Matt, Perrine et Rand les hommes qu'ils étaient aujourd'hui.
« Prends le commandement de ces hommes, »
dit-il en désignant les réserves.
« Je ferai en sorte qu'Arganda et Galad sachent que nous avons reçu des renforts. »
Des flèches noires pleuvaient autour de Pevara, tandis qu'elles tissaient des flux d'air. Comme des pierres balayées du plateau de jeu par un joueur furieux, ces bourrasques dispersaient les projectiles. Ruisselant de sueur, elle s'accrocha au Saïdar et tissa un bouclier d'air qu'elle déploya dans le ciel pour repousser les volées à venir.
« Il n'y a plus de danger !»
cria-t-elle.
« Allez-y !»
Un groupe de soldats jaillit dessous une saillie rocheuse, sur le versant escarpé du plateau de Polov. Des flèches noires tombèrent encore, mais elles percutèrent le bouclier. Terriblement ralenties, elles le traversèrent, mais tombèrent ensuite comme des feuilles mortes. Les soldats que Pevara avait aidés foncèrent vers le point de ralliement, au gué de Awal. D'autres décidèrent de rester sur le versant et d'affronter les Trollocs. Au sommet, les créatures des ténèbres ferraillaient encore pour déloger les derniers humains et sécuriser leur position.
« Où es-tu ?»
Comme un murmure dans sa tête, la pensée rageuse d'Androl atteignit la conscience de Pevara.
« Ici !»
répondit-elle. Plus qu'une pensée, c'était une image, l'indice d'une position. Un portail s'ouvrit à côté de la sœur. Androl en émergea, suivi par Emarine. Les deux hommes brandissaient une épée, mais Emarine se retourna, tendit son bras libre et projeta une lance de flamme via le portail. De l'autre côté, des cris retentirent. Des cris humains.
« Vous êtes allé au contact avec l'armée de Shara ?»
s'étonna Pevara.
« Loghain nous a dit de rester groupés.
»« Tu te soucies de ce qu'il veut à présent ?»
railla Androl avec un grand sourire.
« Tu es insupportable !»
le tensa Pevara. Autour d'eux, des flèches s'écrasaient sur le sol. Plus haut, sur le versant, les trolloques rugissaient de rage.
« Joli tissage !»
fit Androl.
« Merci !»
répondit Pevara. Elle baissa les yeux sur l'épée que tenait la chamane.
« Je suis un champion à présent. Autant en avoir l'air, pas vrai ?»
Cet homme pouvait couper un trolloque en deux avec un portail et à 300 pas de distance et commander à la lave du pic du dragon lui-même. Pourtant, il tenait à arborer une épée. Une coquetterie de mâle, sûrement.
« J'ai capté cette pensée !»
lança Androl.
« Et Marine, avec moi ! Pevara Sedai, si tu voulais bien consentir à nous accompagner !»
Pevara leva le menton, mais elle se joignit aux deux hommes alors qu'ils longeaient le pied du plateau, côté sud-ouest. Quand ils dépassèrent des blessés qui clopinaient vers le point de ralliement, Androl les étudia, puis il ouvrit un portail donnant sur l'arrière. Les malheureux en crièrent de surprise. Ensuite, ils remercièrent leur sauveur et s'engouffrèrent dans le passage. Depuis le départ de la tour noire, Androl était devenu plus confiant. Quand Pevara l'avait connu, il hésitait absolument sur tout. Une sorte d'humilité maladive. Aujourd'hui, c'était terminé.
« Androl !»
fit Emarine, en désignant le versant avec sa lame.
« Je les vois, oui. »
Des trolloques se déversaient sur la pente comme du goudron qui déborde d'un chaudron. Derrière le trio, le portail se referma. Au moins, ces hommes-là ne risqueraient plus rien. Mais d'autres crièrent d'horreur en voyant disparaître le passage.
« Tu ne peux pas les sauver tous !»
pensa Pevara à l'intention d'Androl.
« Ne culpabilise pas et reste concentré sur ce que nous devons faire !»
Le trio se faufila entre les soldats et se dirigea vers un groupe d'achamans et de sœurs, parmi lesquels Jonette, Candler et Théodrine projetaient un déluge de feu sur les monstres. Mais ils ne tiendraient plus longtemps la position.
« Jonette, Candler, avec moi !»
lança Androl. Dépassant ses amis, il ouvrit un portail juste devant lui. Pevara et Emarine le traversèrent sur ses talons pour se retrouver au sommet du plateau. Jonette et les autres suivirent le mouvement et les rejoignirent au moment où ils passaient devant un groupe de trolloques stupéfiés.
« Tissage détecté !»
cria Pevara. Par la lumière, qu'il était dur de courir avec ses jupes. Mais Androl le savait, non ? Alors que des lances de feu fondaient sur ses compagnons et lui, des tissages générés par des chariennes, Androl ouvrit un autre portail. Pevara le traversa, le souffle un peu court. Le passage les transporta derrière les chariennes qui venaient de les prendre pour cible. Pevara ouvrit ses sens, tentant de repérer ou de sentir leur proie. Bien entendu, les chariennes se retournèrent et firent mine de frapper. Jaillissant d'un portail latéral, une avalanche de neige les ensevelit. Décidément, Androl avait une manière bien à lui d'utiliser les portails au combat. Il avait essayé d'ouvrir des portails de la mort qu'utilisaient les autres achamans. Mais c'était un tissage légèrement différent, et il ne parvenait pas à le maîtriser. Du coup, il s'en tenait à ce qu'il savait faire, et laissait libre cours à son inventivité. Quelques gardes de la tour ferraillaient toujours au sommet du plateau, tenant le terrain en dépit des ordres. Au milieu des corps carbonisés, les pièces des dragons, dont les énormes cylindres, continuaient de fumer. Des milliers et des milliers de trolloques campés au bord du plateau criblaient les fugitifs de flèches en rugissant de joie. Leur allégresse lui tapant sur les nerfs, Pevara tissa des flux de terre et les projeta vers le sol, près d'une bande de monstres. Une petite section du plateau trembla, puis se détacha du reste, expédiant dans le vide une vingtaine de trolloques.
« On attire encore l'attention !»
lança Emarine, tout en embrasant un myrdral qui chargeait ses compagnons. Refusant de mourir, le blafard se débattit contre les flammes et hurla de rage. Pevara joignit son feu à celui des marines, réduisant en cendres l'engeance du démon.
« Ce n'est pas si mal, au fond !»
répondit Androl à la remarque des marines.
« Si on continue à se faire remarquer, une sœur noire ou un sbire de Taïm viendra tôt ou tard nous attaquer !»«
En gros !»
fit Jonette.
« Ça revient à sauter sur une fourmilière puis à attendre d'être mordu !»«
C'est très bien vu, oui !»
admit Androl.
« Ouvrez l'œil, je m'occupe des trolloques !»
« Ce n'est pas un peu ambitieux comme programme ?»
émit Pevara. La réponse jaillit, brûlante comme la chaleur qui sort d'un four.
« J'ai trouvé que ça faisait héroïque. »«
Certes, mais je parie que tu ne cracherais pas sur un peu d'aide. »«
Pour être franc, tu as raison. »
Pevara généra le lien, et Androl puisa de la force en elle, prenant le contrôle de leur cercle. Comme toujours, se lier à lui se révéla une expérience exaltante. Alors que ses émotions rebondissaient contre Androl et revenaient vers elle, la sœur ne put s'empêcher de rougir. Sentait-il de quelle façon elle le regardait désormais ?
« Aussi stupide qu'une donzelle en jupette !»
pensa Pevara, en prenant garde à occulter ses pensées vis-à-vis d'Androl. Une gamine à peine assez grande pour faire la différence entre les filles et les garçons. Et ça en plein milieu d'une guerre pour ne rien arranger. Lié avec Androl, Pevara avait beaucoup de mal à contrôler ses émotions. Pourtant, c'était un minimum chez une Aes Sedai. Mais leurs esprits se mêlaient comme deux peintures de couleurs différentes versées dans le même pot. Déterminé à conserver son identité, Pevara luttait contre ce phénomène. Comme on le lui avait répété des dizaines de fois, c'était vital quand on liait quelqu'un. Androl tendit une main vers un groupe de Trollocs qu'il avait pris pour cible avec leurs arcs. Un portail s'ouvrit et les flèches disparurent pour sortir un peu plus loin et s'abattre sur une autre bande de monstres. Des portails éventraient le sol. Les Trollocs tombaient dedans puis réapparaissaient dans le ciel à des centaines de pieds d'altitude. Un tout petit portail décapita presque discrètement un Trolloc qui s'écroula aussitôt, son sang noir se répandant sur la roche. L'équipe d'Androl se tenait sur la partie orientale du plateau, là où avaient été les dragons. Des chariens et des monstres grouillaient tout autour.
« Androl, quelqu'un canalise !»
pensa Pevara. Presque aussitôt, elle sentit au-dessus de sa tête un phénomène extrêmement puissant.
« Taïm !»
cria Androl, fou de rage au point que Pevara eut peur d'être embrasé par cette colère. La furie d'avoir perdu des amis et d'avoir été trahi par l'homme qui aurait dû protéger tous les Achamans.
« Du calme !»
émit Pevara.
« Nous ne sommes pas sûrs que ce soit lui. »
Leur agresseur formait un cercle avec des hommes et des femmes, sinon elle n'aurait pas pu sentir cet tissage. Bien entendu, elle ne pouvait voir que les flux de Saïdar. Une large colonne de feu percuta les défenseurs, diffusant assez de chaleur pour faire virer au rouge la roche du sol. Androl ouvrit un portail, pas une seconde trop tôt, et renvoya les flux à leur expéditeur. En sortant du passage, ils carbonisèrent des charognes de Trollocs et embrasèrent des buissons et des carrés d'herbe. Pevara ne vit pas ce qui se produisit ensuite. Le portail d'Androl se volatilisa, comme si on le lui avait arraché, et la foudre s'abattit à quelques pas du petit groupe. Pevara s'écroula, et Androl tomba à demi sur elle. À cet instant, la sœur lâcha la bonde à ses sentiments. Un accident, à cause de la violence de l'impact. En principe, le lien aurait dû être interrompu, mais Androl n'était pas du genre à lâcher prise. Le barrage qui séparait le « moi » de Pevara de celui d'Androl céda, et leurs essences se mêlèrent. La sœur eut l'impression d'avoir traversé un miroir, puis de se retourner pour voir son reflet. Elle réussit à se dissocier de cette étrange fusion, mais avec une forme nouvelle de conscience qu'elle n'aurait pas pu décrire.
« Nous devons filer d'ici !»
pensa-t'elle, toujours liée à Androl. Tous leurs compagnons semblaient vivants, mais ça ne durerait pas si l'ennemi multipliait les éclairs. D'instinct, Pevara commença à tisser un portail, même si ça n'allait servir à rien. Androl dirigeant le cercle, lui seul, le portail s'ouvrit et Pevara n'en crut pas ses yeux. C'était son œuvre, pas celle d'Androl. Ce tissage comptait parmi les plus complexes, difficiles et exigeants en puissance qu'elle connaissait. Et elle s'en était tirée comme si c'était un jeu d'enfant. Alors qu'elle était dans un cercle dirigé par quelqu'un d'autre. Théodrine fut la première à traverser, entraînant avec elle Jonette. Et Marine les suivit en clopinant, un bras inerte replié contre sa poitrine. Androl fixa le portail.
« On peut canaliser quand on participe à un cercle dirigé par quelqu'un d'autre ?» demanda-t-il stupéfié.
« Non, c'était un accident. »«
Un accident ? Mais... »«
Traverse le portail, idiot !»
lança Pevara en poussant la chamane vers le passage. Elle le suivit et s'étala de tout son long de l'autre côté.
« Damodred, j'ai besoin que tu restes où tu es !»
dit Matt. Il ne leva pas la tête, mais à travers le portail ouvert, il entendit hennir le cheval de Galad.
« On est en droit de douter de ta santé mentale, Cotton !»
répondit le seigneur général des fils. Matt leva enfin son œil unique des cartes. S'habituerait-il un jour au portail ? Pour être franc, il n'aurait pas parié là-dessus. Alors qu'il était dans le bâtiment de commandement qui se dressait au pied de la colline de Dashar, un portail s'ouvrait dans son mur. De l'autre côté, Galad trônait sur sa monture, vêtu du blanc des fils de la lumière. Pour l'heure, il était encore en poste près des ruines, où une armée de Trollocs tentait de traverser la rivière Mora. Galad Damodred était le genre d'homme qui n'aurait pas souffert de lever un peu le coude de temps en temps. Avec ses jolis traits et son expression figée, il aurait pu être une statue. Faux. Certaines statues semblaient plus vivantes.
« Tu feras ce qu'on te dira de faire !»
grogna Matt en consultant de nouveau ses cartes.
« Défends la rivière et obéis aux ordres de Tam. Si tu juges ton rôle trop secondaire, sache que je m'en contrefiche. »
« Parfait, » fit Galad d'une voix plus froide qu'un cadavre conservé dans la neige. Il fit volter sa monture et la Daman Mika referma le portail.
« Matt, c'est un bain de sang !»
dit Elaine. Au nom de la lumière, sa voix était encore plus glaciale que celle de Galad.
« Vous m'avez nommé chef! Laissez-moi faire mon travail !»«
Tu commandes l'armée, et ce n'est pas toi, le chef !»
Rien de mieux qu'une Aes Sedai pour pinailler sur le sens d'un mot. C'était... Matt leva la tête et plissa le front. Min venait de souffler quelques mots à Tuon.
« De quoi s'agit-il »
voulut-il savoir.
« Dans un champ, j'ai vu son corps abandonné, comme s'il était mort. »« Matrim, »
dit Tuon,
« je suis inquiète. Pour une fois, nous sommes d'accord. »
fit Elaine, perchée sur son trône à l'autre bout de la pièce.
« Matt, leur général nous domine totalement. »«
Ce n'est pas si fichtrement simple, »
fit le jeune flambeur, les doigts courant sur les cartes.
« Ce n'est jamais si simple !»
Le type qui commandait l'armée des ténèbres était effectivement très bon.
« C'est Demandred. Je me frotte à un maudit rejeté. »
Ensemble, Demandred et Matt composaient une fresque sublime. Chacun répondant au mouvement de l'autre à grand renfort de subtilité, ils collaboraient à une œuvre d'art. Mais le jeune flambeur essayait d'ajouter un peu trop de rouge sur une de ses toiles. En d'autres termes, il voulait peindre le mauvais tableau, mais à condition qu'il reste crédible. C'était difficile. Il devait être assez fort pour garder Demandred à distance, mais trahir assez de faiblesse pour inciter à une agression. Une machination, même subtile jusqu'au bout des ongles, restait dangereuse, voire dévastatrice. Matt devait avancer sur le fil du rasoir, en sachant qu'il n'aurait aucun moyen de ne jamais se couper les pieds. La question n'était pas de devoir ou non verser son sang, mais d'atteindre le bout du chemin.
« Il faut déplacer les ogiers, »
dit-il.
« Je veux qu'ils aillent soutenir les défenseurs du guet. »
Les Aiels surveillèrent le passage alors que les hommes de la Tour Blanche et les Bras Rouges se retiraient du plateau sur son ordre. La consigne fut relayée jusqu'aux ogiers.
« Sois prudent, Loyal, »
pensa Matt en ajoutant une croix sur la carte, l'endroit où il venait d'envoyer le jeune ogier.
« Qu'on prévienne Lan, »
dit-il.
« Il est toujours du côté occidental du plateau de Polov. Maintenant que la majorité des forces des ténèbres est au sommet du plateau... Je veux qu'il le contourne pour se retrouver derrière l'autre armée, qui tentera bientôt de passer à côté des ruines. L'âne ne devra pas se battre. La mission sera de ne pas se faire voir et de tenir sa position. »
Les messagers partirent au pas de course. Les oubliant, Matt ajouta une notation sur ses cartes. Une Sojin, la mignonne avec les taches de rousseur, lui apporta du kaf. Absorbé par la bataille, il ne songea même pas à lui sourire. En sirotant son kaf, Matt se pencha sur le portail qu'une des damanes avait ouvert à même la table, afin qu'il puisse observer la bataille en temps réel. Il se pencha, mais s'accrocha fermement au rebord du meuble. Seul un imbécile aurait offert à un tueur l'occasion de lui faire exécuter un joli plongeon de plus de 200 pieds. Son caf posé sur un guéridon, il sortit sa longue vue. Désormais, les Trollocs descendaient du plateau pour se diriger vers le marécage. Oui, Demandred était très bon. Les énormes monstres qui avançaient vers le marécage seraient lents, mais puissants et résistants comme une muraille de pierre. De plus, un groupe de chariens montés s'apprêtait à descendre du plateau. Des cavaliers légers. Ils attaqueraient les troupes de Matt qui défendaient le guet de Hawal et les empêcheraient de harceler le flanc gauche des monstres. Une bataille, c'était un duel à l'épée à grande échelle. Pour chaque assaut, il y avait une parade, ou plutôt trois ou quatre. Le grand art était de déplacer un régiment ici et un escadron là, pour neutraliser les menées de l'ennemi tout en continuant à faire pression sur ses faiblesses. En avant, en arrière, en avant, en arrière. Même si Matt était en infériorité numérique, il lui restait ce genre de technique.
« Transmets le texte suivant à Talmanès, »
dit-il au messager qui l'avait fait approcher.
« Tu te souviens du jour où tu as parié que je ne pourrais pas envoyer une pièce dans une tasse depuis l'autre bout de l'auberge ?»«
Oui, très honoré, j'y vais, »
dit le messager. À ce défi, Matt avait répondu qu'il le relèverait quand il serait plus saoul. Sinon, ça n'aurait pas été du jeu. Ensuite, faisant mine d'être rond comme une queue de pelle, il avait incité Talmanès à miser une pièce d'or et non d'argent. Pané de la dernière pluie, l'officier avait insisté pour qu'il boive vraiment.
« Je lui dois encore quelques pièces pour ce coup-là, je crois »,
pensa distraitement le jeune flambeur. Il orienta sa longue vue sur la partie nord du plateau. Un escadron de la cavalerie lourde de Chara se préparait à dévaler la pente. Matt distingua les longues lances à pointe de fer, typiques de tous les cavaliers du monde. Ses hommes se préparaient à intercepter l'âne et ses compagnons, qui faisaient le tour du plateau par le côté nord. Plutôt qui allaient faire, car il n'avait pas encore reçu l'ordre. Ce détail confirma les soupçons de Matt. Des Mandred avaient infiltré des espions dans le camp et au moins un dans la salle de commandement. Ou tout à côté. Quelqu'un en mesure d'envoyer des messages dès qu'il donnait un ordre. Donc, une personne capable de canaliser sans se faire remarquer.
Par le maudit sang et les fichus cendres. Comme si ce n'était pas déjà assez dur sans ça.
Le messager revint avec la réponse de Talmanès.
« Très honoré, » fit-il en se prosternant. « Ton officier dit que ses forces sont totalement défaites. Il aimerait obéir à ton ordre, mais les dragons, précise-t-il, ne seront pas disponibles aujourd'hui, ni plus tard, car il faudra des semaines pour les préparer. Ils sont très honorés, je suis navré, mais ce sont exactement ses paroles. Ils sont pires qu'une fille de salle de Sabinel. J'ignore ce que ça veut dire.
Là-bas, les serveuses sont payées au pourboire, expliqua Matt. Mais les gens ne leur donnent pas un rond.
Un mensonge, bien entendu. À Sabinel, Matt avait essayé de convaincre Talmanès de l'aider à séduire deux jolies serveuses. L'officier lui avait suggéré de feindre une blessure de guerre pour les apitoyer. Le brave homme. Les dragons pouvaient encore servir, mais ils devaient avoir l'air en très mauvais état. Un sacré avantage, ça. Excepté Matt et Aludra, personne ne savait comment il fonctionnait. Et même lui, à chaque salve, il avait peur qu'il lui explose à la figure. Cinq ou six dragons restaient en parfait état de marche. Via un portail, Matt les avait fait mettre en sécurité. Aludra les gardait au sud du gué, braqués en direction du plateau de Polov. Le jeune flambeur les utiliserait, mais il entendait laisser penser à l'espion que la majorité de ses armes avait été détruite. Pendant ce temps, Talmanès les rafistolerait, et il pourrait de nouveau les utiliser.
Mais à l'instant même où je le ferai, Demandred concentrera tout son pouvoir sur ces dragons.
L'astuce serait de choisir le bon moment, par les fichus cendres. Dernièrement, sa vie consistait sans cesse à trouver le bon moment. À force, il serait bientôt à court de cette denrée précieuse. Pour l'instant, il allait ordonner à Aludra d'utiliser les six armes fonctionnelles pour bombarder les trolloques qui dévalaient le versant sud-ouest du plateau. Comme elle était assez loin de sa cible et se déplacerait sans cesse, Demandred aurait du mal à la localiser et à détruire les dragons. D'autant plus que leur fumée ferait un camouflage idéal.
« Matt !»
dit Elaine depuis son trône. Non sans amusement, Matt nota que, sous prétexte de le rendre plus confortable, la reine avait demandé à Birgit de le surélever un peu. Du coup, elle culminait à présent à la même hauteur que Tuon, voire un pouce plus haut.
« Matt, s'il te plaît, peux-tu au moins m'expliquer une partie de ce que tu fais ?»«
Pas sans permettre à l'espion de tout entendre »,
pensa le jeune flambeur en balayant la salle du regard. Qui était le félon ? Un des deux duos de Daman et de Suldam ? Une Daman pouvait-elle être un suppôt sans que sa Suldam le sache ? Et la proposition inverse ? Cela dit, la noble dame avec une mèche blanche dans les cheveux n'avait pas l'air très nette. Ou était-ce un des innombrables généraux ? Galgan ? Tylee ? Gerish ? Cette Séane Chanienne se tenait sur un côté de la pièce, le foudroyant du regard. Ah, franchement, les femmes. Oui, elle avait une jolie chute de rein, mais il l'avait juste dit pour se montrer amical. Enfin, il était un homme marié. Dans cette salle, tant de gens allaient et venaient, en jetant du millet sur le sol, on aurait obtenu de la farine en fin de journée. En principe, toutes ces personnes étaient fiables et incapables de trahir l'impératrice, puissent-elles vivre éternellement. Un miracle qui ne risquait pas d'arriver, si des espions continuaient à sévir.
« Matt !»
insista Elaine.
« Quelqu'un doit savoir ce que tu prévois de faire. S'il t'arrive malheur, il faudra bien prendre ta suite. »
Ça, c'était un bon argument. D'ailleurs, il y avait pensé tout seul. Certain que ses ordres récents seraient suivis, il approcha d'Elaine. Balayant la salle du regard, il eut un sourire innocent à l'intention de tout le monde. Inutile qu'on sache qu'il avait des soupçons.
« Pourquoi fais-tu risette à tout un chacun ?»
demanda Elaine.
« Une fichue risette, moi ? Certainement pas. On sort. Je veux me dégourdir les jambes et respirer un peu d'air frais. »
« Knotai ?»
appela Tuon en se levant. Matt ne regarda pas sa femme, dont les yeux, à ces moments-là, étaient capables de transpercer de l'acier. Au lieu de ça, il sortit du bâtiment comme si de rien n'était. Peu après, Elaine et Birgit le suivirent.
« Que se passe-t-il ? »
demanda la jeune reine.
« Il y a trop d'oreilles là-dedans. »«
Tu penses qu'il y a un espion parmi ?»«
Minute !»
fit Matt. Il prit Elaine par le bras, l'entraîna avec lui, et salua aimablement un détachement de gardes de la mort, qui grognèrent en réponse. Pour ces types, c'était une explosion de volubilité.
« Tu peux parler, »
dit Elaine.
« Je viens de tisser un dôme de silence. »«
Merci. Je voulais t'éloigner du poste de commandement, pour te dire ce que je suis en train de faire. Si ça tourne mal pour moi, tu devras choisir un nouveau général, pas vrai ?»«
Matt, si tu crois qu'un espion... » »«
Je ne le crois pas, j'en suis sûr. Et je vais me servir de ce traître. Ça fonctionnera, fais-moi confiance. »«
C'est ça, oui. Tu es si sûr de toi que tu as déjà un plan de rechange, je parie. »
Matt ignora la saillie et fit un signe à Birgit. Aussitôt, la championne regarda autour d'elle, en quête d'un éventuel fâcheux.
« Tu es bonne aux cartes, Elaine ?»«
Matt, ce n'est pas le moment de jouer. »«
Au contraire !»«
Ne vois-tu pas que nous sommes écrasés par le nombre ?»«
Nous avons de la chance que Demandred n'ait pas décidé de voyager jusqu'ici pour s'en prendre à nous. »« À mon avis, il pense que Rand se cache dans le coin, et il a peur de tomber dans une embuscade. »« Quoi qu'il en soit, se rejeter est très fort. Sans jouer, nous sommes fichus. »
Elaine resta muette.
« Et maintenant, parlons des cartes. »
fit Matt un index levé.
« Elles sont très différentes des dés. Au dé, on veut gagner autant de coups que possible. Parce que plus de victoires égale plus d'argent. C'est la loi du hasard. Aux cartes, tu dois inciter ton adversaire à miser, et à miser gros. Pour ça, il faut le laisser gagner un peu, ou beaucoup. Dans le cas qui nous occupe, c'est très simple. Parce que nous sommes dominés et en infériorité numérique. Donc, la seule façon de gagner, c'est de tout miser avec la bonne main. Aux cartes, tu peux perdre 99 fois sur 100 et finir gagnant si tu remportes le bon coup. À condition que l'adversaire mise imprudemment, et que tu puisses assumer les pertes jusqu'au moment clé.
C'est ce que tu es en train de faire? Laisser croire que nous perdons?
Par le sang et les cendres, non! On ne peut pas truquer ça. Demandred le verrait au premier coup d'œil. Nous perdons pour de bon, mais je suis aux aguets. Dans l'attente du dernier coup. Celui qui me permettra de remporter le pactole.
Et on le jouera quand, ce coup?
Lorsque nous aurons reçu les bonnes cartes.
Matt leva une main.
Pas d'objection, Elaine. Quand ce sera le moment, je le saurai. C'est tout ce que je peux te dire.
La reine croisa les bras au-dessus de son ventre rebondi qui semblait grossir chaque jour.
Super. Quel est ton plan pour les forces andoriennes?
Tam et ses hommes sont engagés le long de la rivière, près des ruines. Quant au reste de ton armée, j'aimerais qu'elle aille renforcer le gué. Demandred escompte probablement que les Trollocs du Nord traverseront la rivière et repoussons nos défenseurs au Chénard. En même temps, les autres monstres et les chariens descendront du plateau pour nous forcer à reculer vers l'amont de la rivière, après avoir passé le gué. L'idée sera de nous coincer, puis de refermer les mâchoires du piège. Demandred a envoyé une force en amont de la rivière Mora, afin de la détourner, ou de lui opposer un barrage. Crois-moi, il ne tardera pas à réussir. Nous verrons s'il est possible de faire jouer ce point en notre faveur. Mais une fois la rivière asséchée, nous aurons besoin de solides défenses pour contenir les Trollocs, quand ils attaqueront en masse. Ce sera la mission de ton armée.
Nous l'accomplirons,
dit Elaine.
Nous ?
S'étrangla Birgit.
Un chef chevauche avec ses troupes.
Elaine se dirigea vers l'endroit où on attachait les chevaux.
Il est évident que je ne sers à rien, et Matt semble vouloir que je me tienne loin du poste de commandement. Donc je pars avec mes hommes.
Au combat ?
Lâcha Birgit.
Oui, pas à la pêche. Birgit, nous sommes déjà au milieu de la bataille. Les chariens peuvent lancer 10 000 hommes à l'assaut de la colline de Dachar. Viens avec moi. Je te jure que tu pourras me faire entourer de gardes au point que je ne puisse pas éternuer sans passer mon rhume au plus proche.
Birgit soupira. Compatissant, Matt la gratifia d'un regard consolant. Après lui avoir dit adieu d'un geste, la championne suivit son Aes Sedai.
Très bien,
songea Matt en retournant vers le poste de commandement. Elaine agissait comme il fallait, et Talmanès avait capté son discret signal. Mais il restait à relever le plus grand défi. Convaincre Tuon de faire ce qu'il voulait. Le long de la rivière Mora, près des ruines, Galad menait une charge de la cavalerie des Fils de la Lumière. Dans ce secteur, les Trollocs avaient construit beaucoup de ponts flottants. Du coup, d'innombrables charognes dérivaient au fil de l'eau, comme des feuilles mortes dans un bassin en automne. Les monstres ayant réussi à traverser devaient à présent faire face aux Fils. Sa lance fermement tenue, Galad se pencha et ouvrit la gorge d'un Trolloc géant à tête d'ours. Sans se préoccuper de sa victime qui tomba à genoux, il continua à avancer, la pointe de son arme dégoulinant de sang. Talonnant Sidama, son cheval de guerre, il fonça sur un groupe de monstres, les renversa ou les força à s'écarter sans tarder. La force d'une charge de cavalerie, c'était le nombre. Les Trollocs, contraints de s'écarter, risquaient fort d'être piétinés par les chevaux qui suivaient Galad. Dans le ciel jaillit une volée de flèches qui s'abattit sur les monstres en train de prendre pied sur la berge de la rivière. Avec leur précision habituelle, les archers de deux rivières firent un massacre. Golver et d'autres fils vinrent rejoindre Galad alors que leur charge cessait faute d'ennemis. Aussitôt, le seigneur général et ses hommes firent volter leurs montures et se précipitèrent au secours de fantassins en difficulté. Sur un champ de bataille si grand, Galad mit presque une heure à rejoindre ses troupes, à les désenclaver et à les orienter vers les ruines, afin que Tam ou un de ses officiers les réorganise en unités dignes de ce nom. Lentement, alors que leur nombre diminuait, les compagnies d'origine fusionnaient les unes avec les autres. Du coup, les fils ne chevauchaient plus seulement avec des mercenaires. Sous ses ordres, Galad avait des gardes ailés, des troupes de Gialdan, et même deux champions, Klein et Alix, qui avaient perdu leur Aes Sedai. Après ce deuil, ils ne survivraient pas longtemps, mais pour l'heure, ils se battaient avec une incroyable férocité. Après avoir envoyé vers les ruines un nouveau groupe de survivants, Galad fit marcher Sidama au pas et écouta attentivement son souffle heurté. Près de la rivière, le terrain n'était plus qu'un sinistre champ de cadavres et de boue. Khotonn avait eu raison de laisser les fils sur cette position. Galad ne lui accordait peut-être pas assez de crédit.
« Combien de temps s'est-on battu ?»
demanda Golver. Son tabard lui ayant été arraché, on voyait sa cotte de maille. Sur son flanc droit, la lame d'un Trolloc avait écrabouillé les maillons. Sans le traverser, mais la présence de sang indiquait qu'une partie des mailles s'était enfoncée dans sa veste rembourrée, puis dans ses chairs. Cela dit, l'hémorragie ne semblait pas grave, et l'homme ne se plaignait pas.
« Il doit être midi, » répondit Galad,
même s'il ne voyait pas le soleil derrière les nuages.
« Donc on ferraille depuis 4 ou 5 heures. Tu crois qu'ils s'arrêteront pour la nuit ?»«
J'en doute, en supposant que cette bataille dure jusque-là. » Golver ne cacha pas son inquiétude.
« Tu crois que... Je ne comprends rien à ce qui se passe. Khotonn a envoyé trop d'hommes ici, et il a abandonné le plateau de Polov. Quelqu'un peut me dire pourquoi ? Et le débit de la rivière, tu ne trouves pas qu'il faiblit ? En amont, le combat ne doit pas bien se passer. »
Galad secoua la tête.
« Si j'avais une vue d'ensemble, je comprendrais peut-être le plan de ce type. »
Galad était un soldat. Pour exécuter ses ordres, un militaire n'avait pas besoin de savoir tout ce qui se passait. Mais d'habitude, à partir des consignes qu'on lui donnait, le jeune homme réussissait à reconstituer au moins une partie de la stratégie de ses chefs.
« Tu as déjà imaginé une bataille si étendue ?»
demanda Golver en balayant le front du regard. Les fantassins d'Arganda étaient allés au contact des Trollocs, de plus en plus nombreux à traverser la rivière. Complètement asséché, s'avisa soudain Galad. Les créatures des ténèbres pouvaient désormais traverser à pied. Le combat serait terrible, mais avec le nombre de Trollocs tués, les chances semblaient un peu plus égales. Khotonn savait que la rivière serait déviée. Voilà pourquoi il avait envoyé tant d'hommes ici. La seule solution pour endiguer le flot de monstres. On croirait voir les subtilités du grand jeu appliquées à l'art de la guerre. Vraiment, Galad avait sous-estimé Khotonn. Une sphère lestée et ornée d'un fanion rouge tomba du ciel à quelques 20 pas devant le seigneur général. Alors qu'elle s'écrasait sur la tête d'un Trolloc mort, le Raken poussa un cri aigu et continua son chemin. Galad talonna Sidama et Golver sauta de selle pour aller chercher le message. Si les portails d'observation étaient très utiles, les Raken pouvaient voir l'ensemble du champ de bataille, repérer les unités idoines et leur délivrer leurs ordres. Quand Golver lui remit le texte, Galad sortit le code de l'enveloppe de cuir qu'il avait glissé dans le revers d'une de ses bottes. Le système était très simple, une liste de numéros avec des mots associés. Quand les ordres n'utilisaient pas un mot-clé avec le bon numéro, il fallait les considérer comme suspects.
« Damodred, avec une dizaine des meilleurs hommes de ta 22e compagnie, longe la rivière jusqu'au gué de Hawal. Arrête-toi dès que tu verras l'étendard d'Elaine, et attends de nouvelles instructions. PS, si tu vois des Trollocs munis de bâtons, laisse donc Golver se charger d'eux. » Si je me souviens bien, tu as du mal avec ces armes. Matt.
Avec un soupir, Galad montra la missive à Golver. Le code l'identifiait. 22e et bâton étaient la bonne combinaison.
Que veut-il de nous ?
Demanda Golver.
J'aimerais le savoir,
soupira Galad. Et ce n'était pas une figure de style.
Je vais choisir des hommes,
dit Golver.
Je suppose que tu voudras Arnesh, Malone, Brokkel.
L'officier cita 7 autres noms.
« Une bonne sélection, »
approuva Galad.
« Eh bien, je ne peux pas dire que cet ordre m'attriste. Ma sœur est sur le front, dirait-on. Je pourrais veiller sur elle. »
Et étudier en détail une autre partie du champ de bataille, ce qui l'aiderait peut-être à saisir ce que Khotonn faisait.
« À tes ordres, seigneur général, »
fit Golver. le Ténébreux attaqua. Un assaut visant à déchiqueter Rand, afin de le détruire fragment après fragment. Avide de s'approprier les éléments qui composaient l'essence du dragon, son adversaire entendait les réduire à néant. Rand ne pouvait ni crier, ni bouger. Cette attaque ne visait pas son corps, car en ce lieu, il n'en avait pas. Seulement une sorte de souvenir de sa propre chair. Pourtant, il réussit à ne pas se laisser dissocier. Avec peine. Face à une telle attaque, l'idée de vaincre le Ténébreux, de le tuer même, n'avait plus aucun sens. Rand était incapable de battre qui que ce soit. Résister, oui, mais pendant combien de temps? L'eût-il voulu qu'il n'aurait pas pu décrire la sensation qu'il éprouvait. C'était comme si le Ténébreux désirait à la fois le débiter en morceaux et l'écrabouiller. Fondant sur Rand à partir de toutes les directions possibles, il le submergeait comme un raz-de-marée. Le jeune homme tomba à genoux. Enfin, une projection de lui-même le fit, et ça lui parut bien réel. Une éternité passa. Rand encaissa tout. La pression écrasante, le bruit de la destruction. À genoux, les doigts repliés comme des griffes, le front ruisselant de sueur, il subit cette éternité de terreur et de souffrance. Puis il leva les yeux.
« C'est tout ce que tu peux faire »
raya-t-il.
« Je vais gagner !»« Tu m'as rendu fort !»
croissa Rand.
« Chaque fois qu'un de tes sbires ou toi avait tenté de me détruire, votre échec a eu l'effet constructif d'un marteau de forgeron qui s'abat sur du métal. Cette tentative, ta tentative d'aujourd'hui ne vaut rien. Tu ne me briseras pas.
Tu te trompes. Ce n'est pas pour te détruire, mais pour te préparer.
À quoi ?
À voir la vérité. Oui, à voir la vérité. »
Des fragments de la trame, des fils, tournèrent soudain devant Rand, se détachant du corps principal de la lumière comme des centaines de minuscules flux flottants. Rand comprit qu'il ne s'agissait pas vraiment de la trame, pas plus que le leurre qu'il prenait pour lui-même n'était son véritable corps. Mais pour interpréter quelque chose de si vaste que le tissu de la création, son esprit avait besoin d'images et de métaphores. C'était celle-là que choisissait sa conscience. Les fils tourbillonnaient, un peu comme les flux dans un tissage de Saïdin, mais il y en avait des milliers, et leurs couleurs se révélaient plus variées et plus vives. Chaque flux était droit, tel un fil tendu au maximum, ou un rayon de lumière. Il se combinait comme si un métier à tisser les produisait, créant une vision autour de Rand. Un sol boueux, des végétaux tachés de noir, des branches d'arbres inclinées vers le bas comme des bras sans force. La vision devint un lieu, une réalité. Rand se mit debout et sentit le sol sous ses pieds. Captant une odeur de fumée dans l'air, il entendit aussi des gémissements de tristesse. Se retournant, il vit qu'il était sur un versant presque stérile au-dessus d'une cité sombre aux murs d'enceinte de pierre noire. À l'intérieur, des bâtiments carrés sinistres se pressaient les uns contre les autres.
« Qu'est-ce que c'est ?»
souffla Rand. Bizarrement, cette cité avait quelque chose de familier. Levant les yeux, le dragon ne vit pas le soleil derrière les nuages qui envahissaient le ciel.
« Ce qui sera, tu vois ce qui sera !»
Rand tenta de se connecter à la source, mais il recula, révulsé. La souillure était revenue. En pire, en bien pire. Alors qu'elle était naguère une sorte de voile noire sur la lumière diffuse du Saïdin, il s'agissait aujourd'hui d'une couche de boue si épaisse qu'il ne parvenait pas à la traverser. Il allait devoir s'envelopper de cette vermine, y plonger à l'aveugle, et chercher le pouvoir de l'unique qui se tapissait dessous, s'il en restait encore. L'idée d'entrer en contact avec cette horreur lui fit monter la bile à la gorge, et il dut lutter pour ne pas vomir. Quelque chose l'attirait vers la cité fortifiée. Pourquoi avait-il le sentiment de connaître ce lieu? À l'évidence, il était dans la flétrissure. L'état des végétaux ne laissait aucun doute là-dessus. Et s'il avait fallu une autre preuve, l'odeur de pourri qui planait dans l'air aurait suffi. Comme dans un marécage l'été, la chaleur était étouffante, malgré la couverture nuageuse. En descendant le versant peu escarpé, Rand aperçut des silhouettes qui travaillaient non loin de là. Des bûcherons qui abattaient des arbres. Une dizaine environ. En approchant, il regarda sur le côté et, dans le lointain, distingua le néant noir qui était en réalité le Ténébreux. Un suaire jeté sur le paysage jusqu'à l'horizon. Un indice pour rappeler à Rand que ce qu'il voyait n'était pas réel? Le jeune homme dépassa une série de souches. Ces hommes coupaient-ils du bois pour le feu? Le bruit des haches et la posture des bûcherons n'avaient aucun rapport avec la force tranquille que Rand associait aux forestiers. Les épaules voûtées, ces spectres frappaient sans puissance ni conviction. Ce type, sur la gauche. En approchant, Matt le reconnut, malgré sa peau ridée et sa silhouette ratatinée. Par la lumière, Tam devait avoir 70 ans, peut-être même 80. Pourquoi travaillait-il comme un bœuf?
C'est une vision, un cauchemar généré par le ténébreux. Ça n'a rien de réel.
Certes, mais immergé dans ce monde, Rand avait du mal à ne pas le considérer comme réel. Parce qu'il l'était, d'une certaine façon. Le ténébreux, pour le créer, utilisait des copies obscures des fils de la trame, des virtualités qui ondulaient autour de la création, comme l'eau quand on laissait tomber un caillou dans une mare.
« Père ?»
demanda Rand. Tam se retourna, mais ses yeux ne se focalisèrent pas sur son fils. Rand le prit par une épaule.
« Père !»
Tam resta figé pendant un moment, puis, retournant à son ouvrage, il leva mollement sa hache. Près de là, Daniil et Jory déracinaient une souche. Ayant eux aussi vieilli, ils semblaient déjà très avancés dans l'âge mûr. Le teint pâle, la peau couverte de lésions, Daniil semblait souffrir d'une terrible maladie. La hache de Jory s'enfonça dans la terre malsaine. Du sol monta une nuée d'insectes noirs qui se cachaient au pied de la souche. Les créatures se posèrent sur le manche de la hache, puis remontèrent tout au long pour fondre sur Jory. Battant des mains, il cria de terreur, mais ses agresseurs en profitèrent pour entrer dans sa bouche. Rand avait entendu parler de ces essaims de la mort, un des multiples dangers de la flétrissure. Il tendit la main vers Jory, mais celui-ci s'écroula, tué en quelques secondes. Tam cria d'horreur, lâcha sa hache et détala. Le suivant du regard, Rand le vit percuter un buisson dévasté. Une créature bondit d'une branche, vive comme la lanière d'un fouet, et s'enroula autour du cou de Tam, le forçant à s'arrêter.
« Non !»
cria Rand. Même si ce n'était pas réel, il ne pouvait pas voir mourir son père. Se connectant à la source à travers le magma poisseux de la souillure, il faillit suffoquer et mit une éternité à localiser le Saïdin. Quand il y parvint, il n'en puisa qu'un mince filet. Il le tissa quand même, puis envoya sur la liane qui étouffait Tam un jet de flamme miteux, mais suffisant. Tandis que le végétal tueur se consumait, Tam recouvra sa liberté de mouvement. Mais il ne bougea pas, les yeux morts.
« Non !»
cria de nouveau Rand. Se tournant vers les insectes, il les détruisit avec une petite lance de flamme. Quelques instants après sa mort, de Jory, il ne restait plus qu'un squelette. Les insectes brûlèrent comme de la paille.
« Un homme qui canalise !»
souffla Daniil, les yeux écarquillés. Les autres bûcherons avaient fui dans les broussailles. Rand capta plusieurs cris de douleur. Malgré tous ses efforts, il ne put s'empêcher de vomir. La souillure était si répugnante. D'instinct, il se coupa de la source.
Viens !
Dit Daniil en le prenant par le bras.
Viens, j'ai besoin de toi, l'étranger.
Daniil, tu ne me reconnais pas ?
Viens !
Répéta Daniil en entraînant Rand vers la cité fortifiée.
Je suis Rand, mon vieux, le dragon réincarné !
Aucune lueur de compréhension ne s'alluma dans les yeux de Daniil.
Que t'a donc fait le ténébreux ?
Souffla Rand.
Ils ne te connaissent pas, adversaire. Je les ai remodelés. Tout est à moi. Ils ne sauront pas ce qu'ils perdent. Tout ce qu'ils connaîtront, ce sera moi.
Je refuse jusqu'à ton existence,
souffla Rand.
Oui, je la nie.
Nier le soleil ne le forcera jamais à se coucher. Et ça n'empêchera pas ma victoire.
Viens !
Insista Daniil en tirant Rand par le bras.
« Je t'en prie, sauve-moi !»«
Mets un terme à cette mascarade !»
ordonna Rand.
« Un terme ? Il n'y en aura pas, adversaire. Ce qui existe continue d'exister. Et j'ai créé tout ça. »«
Non, tu l'imagines !»«
S'il te plaît !»
insista Daniil. Rand se laissa tirer vers la forteresse noire.
« Que fiches-tu ici, Daniil ? Pourquoi être allé couper du bois dans la flétrissure ? C'est dangereux !»«
Une punition !»
murmura Daniil.
Ceux qui mécontentent le maître sont envoyés dehors avec l'ordre de rapporter un arbre coupé de leurs propres mains. Si les essaims de la mort et les lianes n'ont pas leur peau, le bruit des haches attire tôt ou tard d'autres monstres.
Alors qu'il s'engageait sur un chemin menant à la cité noire, Rand arqua un sourcil. Oui, cet endroit lui était familier.
La route de la carrière,
pensa-t-il, très surpris.
Et devant, ce doit être...
La cité fortifiée dominait ce qui était jadis la grande place centrale de Champ des Mondes. La flétrissure s'était répandue jusqu'à deux rivières. Alors que les nuages se faisaient de plus en plus présents, Rand réentendit dans sa tête les cris de Jory. Puis il revit Tam lutter contre la liane tueuse.
« Ce n'est pas réel !»
Non. C'était ce qui se passerait s'il échouait. Tant de gens dépendaient de lui. Certains, il les avait déjà trahis. D'autres étaient morts à son service, et la liste de ses noms l'obsédait. Même s'il avait sauvé des vies, pour celle-là, il n'avait rien pu faire. Une attaque eut de nouveau lieu, très différente de celle qui avait tenté de détruire son essence. Là, le ténébreux s'introduisait dans son cerveau, y instillant l'inquiétude, le doute et la peur. Daniil conduisit Rand jusqu'au portail du village, où deux myrdrals, leurs manteaux insensibles au vent, montaient la garde. Ils s'écartèrent devant lui.
« Tu étais censé rapporter du bois !»
dit le plus grand des deux.
« Je viens avec cet homme. Un cadeau pour le maître. Il peut canaliser. C'est en pensant au maître que je l'ai capturé. »
Rand gémit, puis il plongea vers le pouvoir de l'unique, s'immergeant sans peur dans les immondices. Dès qu'il eut atteint le Saïdin, un mince ruisseau, il tenta de le canaliser. Le pouvoir lui fut arraché violemment, et un bouclier se dressa entre la source et lui.
« Ce n'est pas réel !»
dit-il en se retournant pour voir qui venait de canaliser. Vêtu de noir, Ninevé sortit de la ville fortifiée.
« Un naturel ?»
demanda-t-elle.
« Encore inconnu ? Comment a-t-il fait pour survivre si longtemps ? Bien joué, Daniil. Je te rends ta vie. » Cette fois, fais-en bon usage. Plus d'échecs.
Pleurant de joie, Daniil passa devant Ninevé et entra en ville.
Ce n'est pas réel,
répéta Rand, alors que l'ancienne sage-dame le ligotait avec des flux d'air. Ensuite, les deux myrdrals ouvrant la marche, elle le tira dans la version de Champ des Mondes revisitée par le ténébreux. C'était une grande ville, à présent. Les maisons faisaient penser à des souris qui se massent les unes contre les autres face à un matou. Dans les allées sombres, des gens avançaient, les yeux baissés. Devant Ninevé, les citadins cédaient le passage, l'appelant parfois « maîtresse ». D'autres lui donnaient le nom d'élu. Comme des fantômes, les deux myrdrals disparurent dans les rues. Et quand Rand et Ninevé atteignirent la citadelle, un petit groupe les attendait dans la cour. 12 personnes, dont 4 hommes qui s'étaient déjà connectés au Saïdin. Dans ce lot, cependant, Rand ne reconnut que Damer Flynn. Et deux femmes qui étaient enfants quand ils vivaient encore à Deux-Rivières. Un cercle de 13 en comptant Ninevé. Et non loin de là, un autre, composé du même nombre de myrdrals. Pour la première fois depuis le début de sa vision, la peur prit Rand à la gorge. Non, pas ça. Tout, mais pas ça. Et si ces gens le convertissaient? Si tout ça n'était pas réel, c'était une version de la réalité? Un monde miroir créé par le ténébreux. Si on l'y convertissait, qu'arriverait-il à Rand? Avait-il été piégé comme un bleu? Paniqué, il se débattit contre les liens d'air. En vain, bien entendu.
« Tu es un cas intéressant, »
dit Ninevé en se tournant vers lui. Depuis qu'il l'avait quittée dans la grotte, elle ne semblait pas avoir vieilli d'un jour. Mais il y avait d'autres différences. Les cheveux de nouveau nattés, elle paraissait plus dure, avec un visage plus creux. Et ses yeux ne collaient pas du tout.
« Comment as-tu survécu dehors ?»
demanda-t-elle.
« Sans te faire prendre. » « Je viens d'un endroit où le ténébreux ne règne pas. »
Ninevé éclata de rire.
« Ridicule ! Une fable pour les enfants ! Le grand seigneur a toujours régné !»
Rand dut se rendre à l'évidence. Ce qu'il avait vu de la trame, ce mélange de demi-vérité et de chemins obscurs, cette virtualité pouvait advenir. Une route que le monde risquait de prendre. Ici, le ténébreux avait remporté l'ultime bataille et brisé la roue du temps. Après, il avait tissé la trame à sa façon. Oubliant la vie d'avant, tous les survivants connaissaient uniquement ce que le grand seigneur instillait dans leur esprit. Dans les fils de la trame, qu'il avait touchée un peu plus tôt, Rand vit soudain une forme de vérité. L'histoire de cet endroit maudit, Ninevé, Egwen, Loghain et Katswané, tous convertis, étaient à présent des rejetés. Moiraine, jugée trop faible, avait été exécutée. Elaine, Mine, Avienda, torturée jusqu'à la fin des temps au mont Shagulgul. Le monde était un cauchemar éveillé. Sur chacune de ses parties, un rejeté régnait en tyran. Bien entendu, ces élus passaient leur temps à se battre, envoyant les uns contre les autres leurs seigneurs de la terreur et leurs armées. L'éternelle bataille. Partout, la flétrissure s'était étendue. Le continent séanchanien n'existait plus, dévasté au point que même les rats et les corbeaux ne puissent plus y survivre. Toute personne capable de canaliser était débusquée très jeune et convertie. Le ténébreux détestait l'idée que quelqu'un pourrait un jour rallumer la flamme de l'espoir. Et ça n'arriverait jamais. Rand cria quand les 13 commencèrent à canaliser le pouvoir.
« C'est tout ce que vous pouvez faire !»
lança-t-il. Les membres du cercle assaillirent sa volonté avec les leurs. Comme si des ongles s'enfonçaient dans son crâne, Rand sentit ses chairs se déchirer. Il résista, mais ses bourreaux augmentèrent la pression. À ce rythme, ses os ne résisteraient pas longtemps.
Et donc, j'ai gagné.
Mesurer l'étendue de son échec fit à Rand l'effet d'un coup de massue. Tout ça, c'était sa faute. Ninevé et Egwene convertis à cause de lui. Les femmes qu'il aimait devenues les jouets des ténèbres. Il aurait dû les protéger.
Oui, j'ai encore gagné.
Tu crois que je suis toujours le jeune homme qui Samael a fait tant d'efforts pour terroriser?
Cria Rand, résolu à lutter contre sa terreur et sa honte.
Le combat est terminé.
Non! Il n'est pas encore commencé!
Cria Rand. Autour de lui, la réalité explosa de nouveau pour devenir un entrelac de rubans lumineux. Le visage de Ninevé se détissa, réduit à un masque de tissu effiloché. Le sol disparut et la cité se désintégra. Rand fut libéré des flux d'air qui n'avaient jamais été vraiment là. La fragile réalité créée par le ténébreux se décomposait, réduite à des filaments de lumière qui vibraient comme les cordes d'une harpe. De nouveau, ils attendaient d'être tissés. Rand inspira à fond et regarda le néant noir qui s'étendait derrière ses filaments.
« Shaitan, cette fois, je ne souffrirai pas sans réagir. Et ton cauchemar ne m'impressionnera pas. Je suis bien plus grand que par le passé !»
Rand saisit les fils qui tournaient autour de lui, des centaines et des centaines. Ici, il n'y avait ni feu, ni air, ni terre, ni eau, ni esprit. Des fils plus primaux et en un sens plus varié, chacun étant unique. Contrairement aux cinq pouvoirs, ils étaient légion. Dans sa main, Rand serra le tissu même de la création. Puis il canalisa, tissant une virtualité différente de celle du ténébreux.
« À présent !»
dit-il, tentant d'oublier l'horreur de sa vision.
« Je vais te montrer ce qui arrivera !»«
Les hommes sont en position, mère !»
dit Brain en s'inclinant. Et Gwen prit une grande inspiration. Matt avait envoyé les forces de la Tour Blanche de l'autre côté de la rivière asséchée, en aval du gué, le long de la lisière occidentale du marécage. Pour la dirigeante suprême, l'heure était venue de les rejoindre. Regardant le portail qui menait au poste de commandement de Matt, Egwene hésita un moment. Puis elle croisa le regard de la Cerne Chanienne perchée sur son trône. « Je n'en ai pas fini avec toi, » pensa-t-elle. Elle fit néanmoins signe à Yukiri de fermer le portail.
« Allons-y !»
lança-t-elle, le sang réal de Vora dans une main. Dehors, quelque chose attira son regard. Un détail sur le sol. Des fissures minuscules en étoiles. Intriguée, elle se pencha.
« Il y en a de plus en plus, mère, »
dit Yukiri en s'accroupissant aussi.
« Nous pensons qu'elles se répandent quand les seigneurs de la terreur canalisent le pouvoir. Surtout lorsqu'ils utilisent les torrents de feu. »
Et Gwen toucha les fissures du bout des doigts. Elle semblait normale, n'était qu'elle donnait sur un vide absolu. Une obscurité tellement profonde qu'elle ne pouvait pas être naturelle. Egwene tissa les cinq pouvoirs en même temps afin d'analyser ces phénomènes. Oui. Sans qu'elle puisse expliquer pourquoi, ces flux recouvrirent les fissures comme s'ils étaient des bandages. Le néant noir disparut, laissant des craquelures tout à fait ordinaires, et une fine couche de cristaux.
« Intéressant, »
fit Yukiri.
« Quel tissage as-tu utilisé ? Je n'en sais rien, »
avoua Egwene.
« Ça m'a paru approprié. Gawain, as-tu... »
Mais où était Gawain ? Egwene se releva brusquement. À un moment, se souvint-elle, il était sorti prendre l'air. Mais à quand remontait cet événement? Egwene pivota sur elle-même pour localiser son champion. Grâce au lien, le résultat fut rapide. Gawain se trouvait près du lit de la rivière, en amont du gué, là où Matt avait positionné les forces d'Elaine.
« Lumière ! Que se passe-t-il ? »
demanda Sylviana.
« Gawain est parti se battre !»
fit Egwene d'une voix qui ne tremblait pas, au prix d'un effort surhumain. Imbécile de tête de pioche de bonhomme. N'aurait-il pas pu attendre quelques heures, le temps que son armée soit en position? Oui, il brûlait d'envie de ferrailler, mais il aurait quand même pu demander la permission. Brain se racla la gorge.
« Qu'on envoie quelqu'un le chercher !»
ordonna Egwene. À présent, sa voix était froide et rageuse. Impossible de faire autrement.
« Il a rejoint l'armée d'Andorre !»«
J'y vais !»
dit Brain. Une main sur la poignée de son épée, il leva l'autre pour appeler un garçon d'écurie.
« On ne peut plus me confier des responsabilités, mais ça, je suis encore en mesure de le faire. »
C'était assez logique.
« Amen, Yukiri !»
dit Egwene.
« Quand vous aurez trouvé mon idiot de champion, rejoignez-nous à l'ouest du marécage. »
Brain s'inclina puis se retira. Swan le regarda, ne sachant que faire.
Tu peux l'accompagner,
dit Egwen.
Tu as besoin que je sois avec lui? Eh bien...
Egwen baissa la voix.
Il me faut quelqu'un auprès de Matt et de l'impératrice, qui soit capable d'entendre ce qui n'est pas dit.
Siouan approuva du chef, de la fierté passant dans son regard. En tant que chère d'Amirline, Egwen n'avait pas besoin qu'on soit d'accord avec elle, ou qu'on se rengorge d'avoir été choisi. Pourtant, la réaction de Siouan lui mit du baume au cœur.
« Tu as l'air amusé, »
dit-elle.
« Quand Moiraine et moi avons commencé notre quête du garçon, »
dit Siouan,
« j'ignorais que la trame t'enverrait aussi à nous. Ta remplaçante ?»
fit Egwen.
« Quand elle vieillit, une reine commence à penser à son héritage. Lumière, n'importe quelle femme doit en faire autant. A-t-elle un héritier ou une héritière pour préserver ce qu'elle a créé ? Lorsqu'elle devient plus sage, elle prend conscience que ses réussites ne sont rien, comparées à ce que feront ses successeurs. Bien sûr, je ne peux pas te revendiquer comme ma fille. Et je n'ai pas vraiment été ravi d'être remplacé. Mais il est réconfortant de penser que j'ai une petite influence sur l'avenir. En matière d'héritière, pas une femme au monde ne peut rêver d'avoir mieux que toi. Merci, Egwen. Je vais surveiller cette Séan Chanienne. Et qui sait, aider la pauvre mine à sortir du filet dont elle est prisonnière.
Siouan s'éloigna, faisant signe à Yukiri de l'ouvrir un portail avant de partir avec Brain. Avec un sourire, Egwen regarda l'ancienne chère d'Amirline embrasser le général. Siouan embrassait un homme en public. Sylvana canalisa le pouvoir et Egwen se hissa sur le dos de Daishar dès qu'un portail se fut ouvert. Sangréal brandit, elle s'unit à la source et traversa le passage derrière une petite colonne de garde de la tour. Dès qu'elle fut de l'autre côté, l'odeur de la fumée lui monta aux narines. Le haut capitaine Chubain l'attendait. Depuis le début, cet homme aux cheveux noirs lui semblait trop jeune pour son grade. Mais tous les officiers supérieurs n'étaient pas obligés d'avoir les tempes argentées. Après tout, cette bataille était entre les mains d'un garçon à peine plus âgé qu'Egwen, la plus jeune chère d'Amirline de l'histoire. Egwen se tourna vers le plateau de Polov et ne vit rien, à cause des flammes qui dévastaient le versant et la partie orientale du marécage.
« Que se passe-t-il ? »
« Des flèches enflammées, » répondit Chubain. « Tirées par nos forces, je précise. Au début, j'ai cru que Coton avait perdu l'esprit, mais je comprends son raisonnement à présent. Il a fait tirer sur les Trollocs pour embraser le plateau et son pied, afin de nous fournir une protection. Là-bas, la végétation est sèche et cassante comme du petit bois. Les incendies ont forcé les Trollocs et les cavaliers de Shara à remonter vers le sommet. Pour le moment, au moins. Et d'après moi, Coton espère que la fumée dissimulera le mouvement de nos troupes autour du marécage. »
L'ennemi verrait que quelque chose bougeait dans ce coin, mais impossible de déterminer quel genre d'unité et dans quelle configuration. Au lieu de tirer parti de leur position en hauteur, les ténèbres devraient se fier à leurs éclaireurs.
« Quels sont nos ordres ?»
demanda Chubain.
« Matt ne t'a rien dit ?»«
Non, il nous a juste indiqué une position à tenir. »«
On longera la partie occidentale du marécage, afin de prendre les chariens à revers.
»« Nos forces seront grandement divisées, »
grogna Chubain.
« Et pourquoi attaquer le plateau après le leur avoir offert ?»
Egwen aurait été bien en peine de répondre. Pourtant, c'était elle, essentiellement, qui avait placé Matt à la tête des armées. Inquiète, elle jeta un coup d'œil en direction du marécage, là où elle avait localisé Gawain. Il devait se battre au... Egwen hésita. Dans sa position précédente, elle avait senti Gawain en direction de la rivière. Mais d'ici, elle pouvait le situer plus précisément. Il n'était pas près du cours d'eau avec les forces d'Elaine. Non. Il se trouvait au sommet du plateau, là où grouillaient des Trollocs.
« Gawain, au nom de la lumière, que fais-tu donc ?»